Merci beaucoup. Je vais prendre le micro parce que je vais quand même parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Déjà, c'est un véritable plaisir, je voudrais le dire, je voudrais le souligner, d'être ici. Ça fait très longtemps que je connais la Maison des Minéraux. J'avoue qu'effectivement, Georges, mon oncle n'a pas eu trop à me pousser, je pense, pour me faire venir. C'est véritablement un plaisir d'être ici. C'est une de mes premières, une de mes premières interventions en terre bretonne, au moins en Finistère. Il y en a une autre prévue à Quimper, s'il y en a qui sont vraiment amateurs et qui sont encore dans le coin, sans doute, en fin d'année. Donc ce soir, je vous propose de faire un petit voyage qui va nous amener entre 220 et 65 millions d'années, et de faire un petit peu le tour, un tour de vue des connaissances actuelles sur les dinosaures. Donc vous connaissez tous les dinosaures, vous avez tous entendu parler de dinosaures, vous avez tous vu des dinosaures, même si certains d'entre vous ne le savent pas. Ah, mais...
Non, on ne peut pas les voir.
Ah, mais si, tu vas voir. Et donc, ce soir, ce que je veux faire, c'est justement vous montrer un petit peu où on en est et vous montrer que la paléontologie, et en particulier la branche qui étudie les dinosaures, n'a jamais été aussi active qu'elle l'est à l'heure actuelle. Donc, comme on a un public de 7, oh non, même pas 7, de 4 ou 5 ans à 77 ans, on va essayer de parler de plein de choses différentes. Et en fait, je vais reprendre quelques-unes de ces conceptions qui sont erronées. D'ailleurs, il y en a une. La première, le mot dinosaure signifie terrible lézard. Alors, littéralement, c'est vrai, mais si on reprend l'étymologie du mot dinosaure, vous verrez que ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, je vous propose de parcourir ces 9 conceptions erronées. Je pense que vous avez tous ces idées-là plus ou moins en tête. Donc, le mot dinosaure signifie terrible lézard. Tous les gros reptiles préhistoriques sont des dinosaures. C'est loin d'être le cas. Les mammifères sont apparus après les dinosaures, c'est aussi quelque chose de complètement faux. Tous les dinosaures ont vécu et sont morts en même temps, donc là on va se retrouver, se heurter au problème des temps géologiques. Les dinosaures sont tous à sang froid ou tous à sang chaud, ça aussi c'est quelque chose dont on parle très souvent et en fait qui est très très mal abordé, un problème mal abordé. Une météorite a tué tous les dinosaures, on verra que ce n'est pas tout à fait vrai. On entend souvent dire aussi que les dinosaures sont un échec évolutif, puisqu'on n'en trouve plus à l'heure actuelle. Ça aussi, c'est faux. Comble de l'horreur, certains d'entre vous vont peut-être prétendre que les archéologues exhument des dinosaures, mais je ne suis pas archéologue, je suis paléontologue, c'est un petit peu différent. Et cette proposition numéro 9 aussi que j'ai rajoutée aujourd'hui, qui aujourd'hui, il est difficile de trouver de nouveaux dinosaures. C'est pas vrai, on a l'impression qu'on sait déjà tout sur les dinosaures. Vous connaissez tous des noms de dinosaures. Le problème, c'est que les noms de dinosaures que vous connaissez, c'est des dinosaures qui ont été trouvés il y a 100 ou 150 ans et que vous oubliez la quarantaine de dinosaures qui sont découverts chaque année. Donc ça sera pour revenir sur un aspect qui me tient beaucoup à cœur, qui est le terrain, puisque la donnée de base en paléontologie, quel que soit le fossile étudié, ça reste de découvrir des fossiles. Pour pouvoir les étudier, encore faut-il aller les chercher. Un peu d'histoire pour commencer. On va replacer notre histoire des dinosaures dans un contexte historique. On va remonter à la fin du 19e siècle, dans les années 1800, avec un monsieur qui s'appelait Georges Cuvier. Donc Georges Cuvier, il est passé de Louis XVI, il a passé la Révolution plutôt bien, il s'est retrouvé en 1800 nommé au muséum et il va occuper la chaire d'anatomie comparée du muséum jusqu'à sa mort en 1832. Et Georges Cuvier, c'est un des premiers grands naturalistes français. Avant lui, on avait eu un monsieur qui s'appelait Buffon. Mais Georges Cuvier est le premier à s'intéresser aux animaux, et plus particulièrement aux animaux pourvus d'un squelette, ce qu'on appelle des vertébrés. Et Georges Cuvier va essayer de comparer ces squelettes pour essayer de comprendre comment les animaux sont apparentés les uns aux autres, pour essayer de former des groupes. Donc c'est le père de l'anatomie comparée, et en étudiant des squelettes d'animaux actuels, Georges Cuvier va aussi être amené à étudier des animaux fossiles, les premiers fossiles. Alors ces premiers fossiles, il y en a quelques-uns de célèbres, vous en avez deux ici qui sont actuellement dans la galerie de paléontologie du muséum à Paris. Vous avez l'animal qui est à gauche ici. Donc vous avez ici deux grandes mâchoires qui appartiennent à ce qu'on appelle un reptile marin, un mosasaure. Et ce reptile marin vivait il y a 65 millions d'années, il vivait du côté des Pays-Bas, du côté de Maastricht. Alors ce fossile, il a une histoire célèbre et fameuse. En fait, vous savez que souvent à la fin du 18e et même jusqu'au 19e siècle, quand on était en guerre contre un pays, qu'on envahissait ce pays, on en profitait souvent pour faire son petit marché. Donc les armées de la Révolution, on est en 1792, vont assiéger la ville de Maastricht en Hollande, et on sait à cette époque-là qu'un médecin du coin qui s'appelait Monsieur Hoffmann avait trouvé ce fossile dont on parlait partout dans l'Europe, et qui a été confisqué par le chanoine de Maastricht. Et les armées de la Révolution, après avoir trouvé Maastricht, ont eu pour une de leurs tâches, était de ramener ce fossile. Donc il a été promis 40 bouteilles de bon vin au premier soldat qui rapporterait ce fossile, et il a fallu moins de 48 heures pour que la pièce soit retrouvée alors qu'elle avait été cachée par le chanoine dans la ville de Maastricht. Donc cette pièce est revenue au muséum parce que Cuvier voulait à tout prix l'étudier. Pourquoi il voulait l'étudier ? Parce que d'après ce qu'il avait entendu parler, ses dents, vous voyez que ses dents sont pointues, sont très grandes. Il faut voir que cette... j'ai pas mis d'échelle, c'est une erreur, mais cette mâchoire fait à peu près 1,50 m de long. Donc on a affaire ici à un reptile. Pourquoi un reptile ? Parce que toutes les dents sont pareilles. Vous savez que vous êtes des mammifères, et en tant que mammifère, vous avez des incisives, des canines, des prémolaires, des molaires. Chez les reptiles, toutes les dents ont la même forme. Donc Cuvier, grâce à l'anatomie comparée, peut voir que cet animal est un reptile. Seulement, c'est un reptile d'une taille qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas de reptile actuel avec des mâchoires de plus de 1 mètre. Cuvier a à sa disposition d'autres animaux. Ce grand animal que vous avez ici, et qui est ce qu'on appelle dans notre jargon un mégatherium. En fait, mégatherium, c'est un nom un petit peu barbare. Il s'agit juste d'un paresseux géant. Donc géant, vous le voyez bien, puisqu'il repose ici. Hein, vous avez un tronc d'arbre qui est là, et l'animal fait plus de 4 mètres de long. 4 mètres de long, on sait qu'aujourd'hui, un paresseux ne dépasse pas 1 mètre, 1,50 m de long. Donc Cuvier, voilà ce qu'il dispose. Voilà ce dont il dispose. Il dispose de fossiles, qui sont qui représentent des animaux qu'on ne connaît plus dans la nature actuelle. Et à partir de là, donc Cuvier va travailler sur ce concept d'espèce disparue, et il va montrer qu'il y a des animaux qui ont disparu, qui ont peuplé la Terre à certains moments et qui n'existent plus dans la nature actuelle. Et ça n'a l'air de rien, mais au début du XIXe siècle, c'est un changement complet des mentalités, puisqu'on pensait que la Terre avait un âge, on va dire, biblique, qui ne dépassait pas la dizaine de milliers d'années, et que tous les animaux avaient été créés en même temps. Alors Cuvier, sans le savoir, dans tous les fossiles qu'il va étudier pendant sa carrière, va avoir entre les mains des vertèbres qui viennent de Normandie, de Villers-sur-Mer. Peut-être certains d'entre vous ont déjà été se promener du côté de Villers-sur-Mer. Il y a des falaises très célèbres pour les géologues, qu'on appelle les falaises des vaches noires. Et dans ces falaises des vaches noires, on a ramassé des vertèbres. Cuvier va étudier ces vertèbres et va les décrire comme appartenant à un crocodile. Un crocodile fossile, un crocodile qui a disparu. Ce que Cuvier ne sait pas à l'époque, c'est qu'il est en train en fait d'étudier les premiers restes connus de dinosaures. Ce ne sont pas des vertèbres de crocodile qu'il étudie, mais des restes de dinosaures carnivores. On est dans les années 1800-1810, et très peu de temps après, dans les années 1815, on va voir plusieurs découvertes importantes. D'abord, faites par beaucoup d'Anglais, en particulier un monsieur qui s'appelait William Buckland, qui était révérend. Et le révérend Buckland va décrire le premier, va donner un nom au premier dinosaure, et il va l'appeler Megalosaurus. Alors évidemment, il ne sait pas que c'est un dinosaure, puisque le terme dinosaure n'a pas encore été créé. La création du mot dinosaure, on la doit à ce monsieur qui s'appelle Richard Owen, qu'on considère souvent comme étant le Cuvier français. Et Richard Owen va nommer pour la première fois les dinosaures en 1842. Donc le mot dinosaure a été créé en 1842. Alors effectivement, littéralement, dinosaure, ça fait deinos et sauros, ça veut dire terrible lézard. Mais en fait, si on lit la publication originale de Owen, on se rend compte que le terrible n'a rien à voir avec l'aspect effrayant des animaux, mais avec leur taille gigantesque. En fait, la traduction exacte, c'est « lézard terriblement grand ». Parce que ce qui frappe tous les auteurs à cette époque, il faut voir qu'on n'a pas encore un seul squelette complet. À chaque fois, on a 3-4 os à gauche, 3-4 os à droite, mais jamais de squelette complet. Et ce qui frappe tous les naturalistes à cette époque-là, c'est la taille de ces animaux, d'où le nom du groupe dinosaure. Donc nous sommes en 1842, et on a pour l'instant que 3 dinosaures connus. Les choses vont rapidement évoluer, je ne vais pas rentrer dans un détail de toutes les découvertes qui ont été réalisées à la fin du 19e siècle, mais parmi ces découvertes, on peut mentionner celle de l'iguanodon, ça doit être un nom qui vous évoque sans doute quelque chose. L'iguanodon, vous pouvez voir sur cette photo ici, où on a retrouvé un troupeau complet dans une mine de charbon en Belgique, à Bernissart. C'est les premiers dinosaures complets décrits et surtout découverts. Et très peu de temps après, on va découvrir en Amérique du Nord, aux États-Unis, tout un tas de nouveaux dinosaures que vous connaissez très bien, puisque c'est ces dinosaures qui hantent l'imaginaire depuis plus d'un siècle. C'est le Diplodocus, le Tyrannosaure, le Triceratops. Donc tous ces animaux-là vont être découverts à la fin du 19e siècle. Vous avez ici l'un des plus célèbres d'entre eux, le Diplodocus. Donc là, vous êtes toujours dans la galerie de paléontologie à Paris. Ce Diplodocus, donc, qui est un de ces grands dinosaures sauropodes, je vais vous représenter quelques-unes des familles de dinosaures après. Donc ce Diplodocus, qui a été découvert dans les années 1880, grâce à des financements, on va dire privés, puisque c'était un magnat de l'acier qui s'appelait M. Carnegie, qui a financé les expéditions. Et Carnegie était tellement content de la découverte du Diplodocus qu'il a fait faire des répliques du squelette et les a offerts à de très nombreux musées dans le monde, et en particulier en Europe. Donc ce Diplodocus, vous l'avez ici à Paris, mais vous pouvez aussi le voir à Londres, vous pouvez le voir à Berlin, vous pouvez le voir à Stuttgart, vous pouvez le voir à Bologne, j'ai dû en oublier un ou deux autres, mais voilà, c'est sans doute le dinosaure, un des dinosaures les plus connus, et un de ces dinosaures qui a fait rêver beaucoup, beaucoup d'enfants. Moi, je sais, personnellement, je me souviens d'avoir été me promener ici, d'avoir vu ce dinosaure avec mon grand-père quand j'ai commencé à m'intéresser à ces animaux-là. Alors, ça attire tellement les foules, parce que ça aussi, c'est pareil. On a toujours l'impression que les dinosaures, c'est une mode actuelle. Non, les dinosaures, c'est pas une mode actuelle. Et c'est pas à M. Spielberg qu'on doit la mode des dinosaures. Certes, M. Spielberg a fait beaucoup pour les dinosaures avec ses 3 films Jurassic Park, mais il faut savoir que les dinosaures attirent les foules depuis très très longtemps. Vous avez ici justement ce montage et cette inauguration du Diplodocus à Paris en 1908, avec le président de l'époque, M. De Falière, qui va arriver, qui va venir inaugurer le montage, qui en arrivant dans la galerie, en voyant l'animal, n'aura d'autre mot que de dire « Oh mon Dieu, quelqu'un !» Donc vous imaginez les éditos de l'époque. Et dans les journaux, à l'époque, vous voyez qu'il y a tout un tas de petites brochures qu'on peut retrouver, des petits dessins marrants. Le Diplodocus, eh ben vrai, en voilà une sale bête. Ils disent que c'est un animal préhistorique. Donc vous voyez déjà à l'époque, on rigole autour des dinosaures, et surtout les dinosaures fascinent déjà. Il faut savoir que lors de l'inauguration du Diplodocus, la première semaine à Paris, il va y avoir à peu près 10 000 personnes qui vont passer dans la galerie. On est en 1908, hein, je vous rappelle qu'à cette époque-là, les transports en commun n'étaient pas aussi efficaces qu'ils le sont à l'heure actuelle. Alors, revenons un peu à nos dinosaures, revenons un peu à l'histoire des dinosaures. Enfin, j'entends au premier rang. Alors, les dinosaures, qu'est-ce qu'on sait des dinosaures? Que sait-on de l'apparition des dinosaures? Ben, je vous propose donc un saut de 230 millions d'années. On est à la fin d'une époque qu'on appelle le Trias. Donc, à la fin du Trias, vous avez ici, en haut à gauche, une reconstitution du globe terrestre et la position des continents tels qu'ils étaient à l'époque. Donc, vous voyez, c'est difficilement compréhensible, mais on arrive quand même à deviner 2-3 choses. On peut distinguer l'Amérique du Sud à gauche, l'Amérique du Nord, l'Europe est tout en haut. Tout ce que vous avez en haut à droite, ça correspondra, hop, on est ici. Là, vous êtes en Chine. L'Afrique est quelque part ici. Là, vous devez avoir un morceau de l'Inde, l'Antarctique est là, et l'Europe est ici, avec une mer épicontinentale, hein, donc très peu profonde ici. Donc tous les continents forment un unique bloc, qu'on appelle encore à l'époque la Pangée. Cette Pangée est en train de se disloquer, et en fait, l'histoire des dinosaures va suivre un petit peu cette dislocation de la Pangée, c'est-à-dire que sur des faunes qui sont homogènes au début de leur histoire, on va commencer à avoir un endémisme de plus en plus marqué. C'est-à-dire qu'à 230 millions d'années, on trouve à peu près les mêmes dinosaures partout sur le globe. Il y a 65 millions d'années, quand la plupart des dinosaures vont disparaître, on a des dinosaures qui ont une répartition qui n'est pas du tout ubiquiste, avec des dinosaures spécifiques à chaque continent. Alors les dinosaures, ils ont beau être grands, ils ne le sont pas à leur début. Vous avez à droite un de mes collègues, Paul Sereno, de l'Université de Chicago, qui est en train de faire guili-guili à un petit dinosaure qu'il a découvert en Argentine, donc ce qu'on appelle Eodromeus. Eodromeus fait partie, est l'un des plus vieux dinosaures carnivores connus. Donc vous voyez, il n'est pas plus gros qu'un chat. On est encore loin de la taille des 25 ou des 30 mètres connus par la suite. Et ces petits dinosaures ne sont pas encore très abondants. Pourquoi ? Bah parce qu'ils ont maille à partir avec tout un tas d'autres reptiles qui leur sont relativement étroitement apparentés. Vous avez ici des crânes de certains de ces reptiles, avec certains qui ont des nez incroyables, d'autres qui n'ont pas de dents, qui ont l'air d'avoir plutôt des becs, et d'autres qui ressemblent déjà étrangement à des dinosaures, mais qui n'en sont pas. Donc, les dinosaures vivent dans un monde à la fin du Trias, dans lequel, apparemment, ils sont bien adaptés, mais ce n'est pas encore les patrons de la planète, il va falloir attendre un petit peu. Il va falloir attendre, en fait, à peu près 200 millions d'années. C'est la limite entre le Trias et le Jurassique. Et il y a 200 millions d'années, il va y avoir une grande extinction de masse. On reparlera tout à l'heure des extinctions de masse avec la disparition des dinosaures. Mais il y a beaucoup, beaucoup de groupes d'animaux, de vertébrés continentaux qui vont disparaître il y a 200 millions d'années et qui vont laisser le champ libre quelque part aux dinosaures, qui vont en profiter pour coloniser à peu près toutes les niches écologiques. Et donc, c'est ce qu'on retrace ici par ces petits arbres, si vous voulez, qu'on appelle phylogénétiques, qui ressemblent un peu à une généalogie, si vous voulez, c'est-à-dire qu'ils tracent les liens de parenté entre les différents groupes de dinosaures. Donc, vous voyez, ici, on est à 200 millions d'années, et on est ici plutôt à 220 millions d'années, premier dinosaure. 200 millions d'années, on va avoir une extinction, et après cette époque-là, on va commencer à voir les groupes de dinosaures qui se diversifient. Et on va voir apparaître tous les grands groupes de dinosaures. Donc on va faire, je ne vais pas vous faire un inventaire à la Trésor, il faut savoir qu'aujourd'hui, on connaît 1050 espèces de dinosaures. Donc 1050 espèces, je suis sûr que si je vous donne un papier, un crayon, et que je vous demande de m'en donner 10 déjà, je ne suis pas sûr d'avoir 2-3 personnes qui soient capables de m'en donner 10. Peut-être au premier rang, là. Ouais. Alors, je vous propose quand même de voir un petit peu ces grands groupes de dinosaures. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais au moins voir un petit peu ce à quoi ils ressemblent, puisque je vais vous en reparler par la suite. On va d'abord s'intéresser à ce grand groupe ici, qui apparaît en rouge, qui est le groupe des dinosaures carnivores. Et ce groupe de dinosaures carnivores, dans notre jargon, on appelle ça des théropodes. Donc, le théropode, le groupe des dinosaures carnivores. Vous avez ici un exemple typique de ces théropodes. Donc des grands dinosaures carnivores. Alors j'ai volontairement choisi de ne pas mettre le tyrannosaure, parce que le tyrannosaure, tout le monde le connaît. Ça pourrait ressembler à un tyrannosaure. Les plus férus d'entre vous verront peut-être que cet animal a des toutes petites pattes antérieures, ce qui est aussi le cas du tyrannosaure. Par contre, si vous regardez, vous verrez qu'il a 1, 2, 3 doigts, là où le tyrannosaure n'en a que 2. Donc ce n'est pas un tyrannosaure, ça ressemble à un tyrannosaure. C'est ce qu'on appelle un Abelisauridae, c'est une famille de dinosaures carnivores. Et cette famille de dinosaures carnivores, elle est assez emblématique parce qu'on ne la connaissait pas encore il y a 20 ans. Les premiers Abelisauridae ont été découverts en Argentine dans les années, allez, je dis 20 ans, maintenant ce serait plutôt 25 ans, au milieu des années 80. Et depuis, on en a trouvé un petit peu partout sur la planète et on en connaît plus d'une vingtaine d'espèces à l'heure actuelle. Et ces animaux, certains d'entre eux sont conservés par des spécimens remarquables puisqu'ils sont, comme vous pouvez le voir, véritablement complet. Donc celui-là vient de Madagascar et représente donc ces grands dinosaures carnivores à la fin du Crétacé. On reparlera tout à l'heure des dinosaures carnivores, vous verrez pourquoi. Autre groupe de dinosaures, donc proche des dinosaures carnivores, vous avez une autre branche là, et vous voyez le nom marqué sauropoda. Je vous ai déjà parlé des sauropodes tout à l'heure avec le Diplodocus. Donc les sauropodes, ce sont ces grands dinosaures quadrupèdes herbivores, avec un long cou et une longue queue. Et vous avez ici celui qui est censé être le plus grand de tous, qu'on appelle Argentinosaurus, puisqu'il a été trouvé en Argentine. Et Argentinosaurus est censé mesurer 40 mètres de long et peser environ une cinquantaine de tonnes. Pourquoi est-ce que je dis « est censé » ? Parce que ce que vous avez là, contrairement à l'image précédente, ce que vous aviez sur l'image précédente, c'était un squelette reconstitué, remonté. Là, ce que vous avez, c'est un squelette sculpté. Cet animal, en fait, on n'en connaît que deux os et demi. On en connaît une partie du fémur, un tibia complet et un morceau de vertèbre. Donc, il est très largement inconnu. On a estimé qu'il pesait 50 tonnes. On a estimé qu'il mesurait 40 mètres de long. Ça reste très conjoncturel. J'y tiens beaucoup. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Autre groupe de dinosaures, on va maintenant décrire les animaux qui sont ici, qui sont tous des herbivores, avec en premier lieu des dinosaures assez spécifiques qu'on appelle les ornithopodes. Les ornithopodes, avec ici deux spécimens de dinosaures chinois, qu'on appelle des dinosaures, des hadrosaures, des dinosaures à bec de canard. Effectivement, si vous regardez le crâne de ces animaux, vous voyez que le bout du museau est complètement aplati. Vous voyez que ce bout de ce museau ne comporte pas de dents. Les dents sont simplement à l'arrière de la mâchoire. Vous voyez qu'ils sont pourvus de structures assez étranges, avec une espèce de crâne, de crête au-dessus du crâne. Ces animaux sont bipèdes. Ils ont un petit cou, contrairement à notre Diplodocus. Donc ils appartiennent à ce groupe des ornithopodes. Et ce sont les herbivores dominants dans les continents du Nord. Il y a entre eux, on va dire, 130 et 65 millions d'années. Autre groupe très célèbre, donc on en a parlé tout à l'heure, du Triceratops. Triceratops, ça veut dire tête à trois cornes. Donc vous pouvez voir ces trois cornes, il y en a deux qui sont effectivement très facilement visibles, et la troisième au bout du museau. Cet animal a la particularité aussi de posséder un bec. On n'a plus du tout affaire à un bec de canard, là, mais au contraire à un bec de perroquet. Et à l'arrière, on a des dents très petites, très ramassées, très courtes, qui sont imbriquées les unes dans les autres et qui forment de véritables râpes. Ces animaux-là sont les dinosaures à cornes, sont un groupe qui apparaît très tardivement dans l'histoire des dinosaures, il y a à peu près 130 millions d'années. Et on pense que leur évolution va se faire conjointement à celle des plantes à fleurs. Il faut bien imaginer que notre histoire des dinosaures, je vous l'ai dit tout à l'heure, les dinosaures vont évoluer avec les continents, mais vont aussi évoluer avec leur environnement. Et l'une des étapes majeures dans l'évolution des plantes va se produire il y a 130 millions d'années avec l'apparition des plantes à fleurs. Avant, au Jurassique, au Trias, il faut imaginer des paysages sans fleurs et sans plantes à fleurs. Donc tous les arbres que vous connaissez, enfin, en gros, vous pouvez sortir ici et tout ce que vous voyez, vous le mettez à la poubelle, ça n'existait pas il y a 130 millions d'années. Donc il faut s'imaginer des paysages remplis de fougères, remplis de conifères, de prêles. C'est assez difficile. Les seuls paysages qu'on ait qui pourraient ressembler un petit peu sont ceux qu'on trouve en Nouvelle-Calédonie, sur l'île aux Pins, par exemple. Donc on pense que les Triceratops ont évolué conjointement aux plantes à fleurs et ont développé justement ces dents, ces grosses râpes qui leur permettaient de se nourrir de ces plantes. Dernier groupe important de dinosaures, hein, je fais juste un bref survol parce que sinon on pourrait y passer des heures et des heures, ce qu'on appelle les dinosaures cuirassés, tirés au fort, ça veut dire porteurs de plaques, avec le plus célèbre d'entre eux, le stégosaure. Le stégosaure, dont on a dit beaucoup de choses un peu étranges, on s'est pendant très longtemps demandé à quoi lui servaient ces grandes plaques au-dessus de son dos. Hein, vous voyez qu'il a éprouvé une toute petite tête, d'une très longue queue avec des piquants au bout. Donc ça, on pense que ça a une structure défensive, et de ces grosses plaques. Alors évidemment, on n'aime pas quand on a des structures aussi étranges, on n'aime pas que ces structures n'aient pas de fonction. Et on cherche toujours, quand on voit un animal, à lui trouver une fonction. Et on cherche toujours, évidemment, ou des fonctions de défense ou des fonctions d'attaque, puisqu'on a cette fâcheuse impression, surtout quand on regarde les films qui traitent des dinosaures, que les dinosaures passaient leur temps à se battre. Bon, les dinosaures ne passaient pas leur temps à faire la guerre, ils passaient aussi leur temps à faire l'amour, j'ai envie de dire. Et ces structures très étranges, qui il y a encore une dizaine ou une vingtaine d'années, on pensait être des armes défensives, on pensait que ces plaques empêchaient les carnivores de manger le stégosaure, ou du moins de l'attaquer. Ces structures, en fait, sont très très fragiles, n'ont aucun rôle défensif, elles n'ont non plus aucun rôle de thermorégulation. On pensait que ça servait de radiateur aussi à un moment, que l'animal mettait ses plaques au soleil pour se réchauffer. On sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai, il n'y a pas de structure particulière. L'histologie, la microhistologie, c'est-à-dire l'étude anatomique précise des os, ne nous montre pas de rôle important au niveau de la thermorégulation. Et en fait, ces plaques, elles sont juste là pour faire joli. Et 90%, 95% des structures étranges, vous avez vu avant les cornes du Triceratops, vous avez vu la corne de Tsingtaosaurus, et toutes ces structures vraiment incroyables, on sait aujourd'hui, la plupart des collègues sont d'accord pour admettre que ce sont juste des structures qui sont là pour orner l'animal, c'est des ornementations qui vont servir au moment des parades nuptiales, qui vont servir de moyens de communication visuelle entre les individus d'une même espèce, ou qui vont pouvoir aussi servir de reconnaissance entre les adultes et les petits d'une même espèce. Alors, j'ai parlé des dinosaures, j'ai parlé un petit peu du cadre dans lequel ils ont évolué, dans lequel s'est faite leur histoire. Maintenant, parlons un petit peu du métier, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui intéresse aussi beaucoup les gens, c'est de savoir, mais à quoi est-ce qu'on passe notre temps quand on est paléontologue? Donc, à quoi ressemble un paléontologue? Alors, pas à ça. C'est certain, beaucoup de gens voudraient nous voir comme ça, malheureusement, on ne ressemble pas du tout à ça. On ne ressemble pas non plus à ça, et ça n'arrivera jamais. Il y a peu de chances qu'on arrive un jour à faire des dinosaures qui ont disparu. En plus, il y a des gens qui ne volent pas dans la salle. Les paléontologues, ça ressemble plutôt à ça, donc de la pierre, des os, souvent beaucoup de soleil, de la chaleur, et beaucoup de temps devant soi pour dégager des squelettes. Donc vous avez ici un squelette qui est en cours de dégagement dans le Ténéré, on est pas loin de la ville d'Agadez au Niger. Et voilà, avant de vous présenter des squelettes complets, il faut savoir qu'il y a tout un travail qui peut prendre parfois, dans le meilleur des cas, un an ou deux ans, la plupart des cas, une dizaine ou une quinzaine d'années. Alors, à quoi ça sert? Comment est-ce qu'on travaille, hein? Qu'est-ce qu'on fait au jour le jour? Alors, je ne vous parle pas de tous les problèmes administratifs et autres. Hein. Le travail sur le papier du paléontologue, du moins pour les gens qui travaillent sur les dinosaures, ça va être d'abord donc de trouver des fossiles, ensuite de les décrire, et après, simplement, de proposer une interprétation à la découverte. Donc pour les trouver, il faut prospecter, il faut fouiller. Après, simplement, l'histoire ne fait que commencer, parce qu'une fois que vous avez trouvé au milieu du désert ou même sur le bord d'une plage un squelette de dinosaure, il va falloir le préparer. Et c'est la préparation que les gens ne voient jamais. La préparation, c'est quoi? C'est en laboratoire, c'est prendre des petites aiguilles, c'est prendre des micro-burins, des micro-graveurs et dégager de leur gang, tous les os des dinosaures pour qu'on puisse les étudier par la suite. C'est ce travail-là qui est le plus long, c'est ce travail-là qui le prend le plus de temps, et c'est ce travail-là qu'on n'a souvent pas le temps de faire complètement. Ensuite, ça va passer dans les mains, on va dire, du grand scientifique, si vous le voulez, avec des descriptions et des comparaisons. Et là, il va falloir comparer les os trouvés, comme le faisait Cuvier à l'époque, sauf que quand on trouve des os de dinosaures, maintenant, il y a 1000 autres dinosaures à aller voir, pour comparer et pour savoir à quel type de dinosaure on a affaire. Et après, une fois qu'on aura fait ces comparaisons, on pourra tenter de reconstituer l'histoire d'un groupe pour reconstituer simplement l'histoire du vivant, mais aussi celui des écosystèmes passés. C'est ce qu'on appelle la paléoécologie et la paléogéographie. Après seulement, si le fossile le mérite, il pourra se retrouver dans un musée et peut-être fera-t-il l'objet de films ou d'ouvrages. Alors, ce que tout paléontologue rêve de trouver, c'est ça. C'est-à-dire, là, vous avez un de ces fossiles exceptionnels, comme on en trouve quasiment jamais. Donc, deux animaux. En haut, vous avez ce qu'on appelle le vélociraptor. Vous avez déjà dû entendre ce nom-là. Donc, un dinosaure carnivore. Vous voyez ses pattes arrière, ici. Ses pattes avant-là, avec ses griffes. Et en bas, vous avez un petit dinosaure herbivore, qu'on appelle un protocératops. Sa tête est ici, triangulaire. Le corps est ici, la queue là, le bassin. Et en fait, cet animal a mordu le vélociraptor qui l'attaquait. Et ces deux animaux se sont battus et ont été enfouis par un éboulement, sans doute une dune de sable qui s'est écroulée sur eux, et se sont fossilisés tels quels. Donc ça, évidemment, c'est un cas exceptionnel de fossilisation. Et ça n'arrive quasiment jamais de trouver des choses comme ça. La plupart du temps, quand vous cherchez des fossiles, vous trouvez ça. C'est nettement moins sexy, n'est-ce pas ? Donc vous avez des cailloux, qui en fait ne sont pas des cailloux, qui sont bien des morceaux d'os. Là, vous avez le morceau d'un fémur d'un gros dinosaure sauropode, hein, vous le voyez par rapport à la taille du marteau de géologue. Mais souvent, voilà ce qu'on trouve. Bon, à partir de ça, on est content, on sait que les roches environnantes contiennent des dinosaures, des fossiles de dinosaures. Encore faut-il les mettre au jour et trouver quelque chose qu'on puisse vraiment étudier. Certains collègues aussi, parce qu'il ne faut pas croire que tous les paléontologues travaillent sur les dinosaures. Déjà, on n'est pas ceux qui travaillent sur les vertébrés ne sont pas les plus nombreux. Et certains de mes collègues, là actuellement, j'ai un étudiant qui travaille sur ce type de matériel. Donc ça, ce sont des épingles. La tête de l'épingle est là. Là, vous avez un bouchon. Et là, ce que vous avez, c'est une mâchoire de mammifère qui date de 70 millions d'années. Vous voyez les petites dents. Et donc, il y a des gens qui ne travaillent que sur ce matériel-là. Donc, vous imaginez aussi, c'est encore une autre approche très, très différente parce qu'on ne peut pas trouver ça sur le terrain. Personne n'a l'œil assez exercé pour pouvoir avoir des choses aussi petites. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ramène des sédiments qu'on va concasser, qu'on va broyer, qu'on va passer sous l'acide. Et après, on va tamiser et on va trier ça sous une loupe binoculaire jusqu'à ramasser ce type de reste, si tant est qu'on en trouve. Il faut savoir que pour les gens qui travaillent sur les micro-mammifères, quand ils trouvent une dent pour une tonne de roche, ils estiment qu'ils ont trouvé un gisement riche. D'autres collègues aussi ne travaillent pas sur les os. Il faut savoir que les dinosaures ne laissent pas que des os. Ils laissent aussi des empreintes de pas. Donc vous avez ici quelques-unes de ces empreintes de pas. Vous avez deux pistes de sauropodes parallèles l'une à l'autre qui sont sur une montagne qui a été inclinée. On est en Bolivie actuellement. Donc certaines personnes, ça s'appelle la paléoïchnologie, ne s'intéressent qu'aux empreintes de pas. Alors, je vais vous faire profiter un petit peu de ce terrain en vous faisant partager deux expériences relativement récentes. Donc j'ai été récemment convié par un de mes collègues du muséum à aller me promener dans un petit état d'Afrique australe qu'on appelle le Lesotho. Donc vous avez l'Afrique ici, le Lesotho se trouve ici. C'est un état qui est complètement enclavé au niveau de l'Afrique du Sud. Et cet état complètement enclavé a la particularité d'être le pays où, dans lequel l'altitude moyenne est la plus élevée, puisqu'on a une altitude moyenne de 1400-1500 mètres. Alors, on pourrait croire, comme c'est presque la montagne, que la géologie est compliquée. Non, rien n'est plus simple que la géologie au Lesotho. Je ne sais pas pourquoi, mais même après 220 millions d'années, toutes les couches de roches sont restées quasiment horizontales. Donc, c'est facile, vous avez des couches de grès, rouge, vert, jaune, bleu, enfin, il y a toutes les couleurs. C'est que des grès horizontaux, et le tout est chapeauté par des immenses épanchements volcaniques. Et tous ces grès datent d'il y a à peu près entre 210 et 190 millions d'années. Donc voilà les paysages du Lesotho. Vous voyez, les roches, on les suit très très bien. Dans la géographie, c'est complètement horizontal, et on a ces couleurs rouges de grès. Et ces grès nous indiquent un milieu continental, c'est-à-dire que ces roches se sont formées sur le continent, pas en pleine mer. Et moi qui cherche des dinosaures, évidemment, c'est ce type de roche que je recherche. Je ne vais pas aller chercher des dinosaures en pleine mer pour la bonne et simple raison que les dinosaures sont des animaux uniquement terrestres qui ont des pattes verticales qui leur servent à se déplacer. C'est ce qui définit un dinosaure. En fait, les dinosaures sont les seuls reptiles à avoir des membres verticaux. On pense souvent que l'homme a inventé la bipédie, mais rappelez-vous que les dinosaures l'ont inventé 200 millions d'années avant, puisque la plupart des dinosaures et les premiers dinosaures étaient déjà bipèdes. Et donc, ces couches du Lesotho, elles sont très intéressantes parce qu'elles vont nous renseigner sur les premiers dinosaures. Donc, voilà, je me suis retrouvé en 2008 dans la vallée de l'Orange. L'Orange, c'est le grand fleuve qui passe ici. Et dans cette vallée de l'Orange, on a fait le tour des gisements avec des collègues qui avaient travaillé là pendant toute leur carrière. Et comme il se doit, quand on est là et qu'on ne cherche pas spécialement, on trouve. Et comme ça arrive aussi très souvent, c'est en allant soulager un besoin naturel que l'un de nos collègues a mis la main, si je puis dire, donc sur un bord de route. Vous voyez ici le petit minibus avec lequel on se promenait, sur le bord de route, donc juste ici, a mis la main sur de superbes restes de dinosaures. Alors, à quoi ça ressemble quand on les découvre? Parce qu'évidemment, vous allez voir ce que je vous montrerai tout à l'heure, ça sera beaucoup plus joli, mais quand tout commence, voilà à quoi ça peut ressembler. Donc là, vous êtes sur le bord de la route, vous vous arrêtez, et voilà ce que vous voyez. Alors évidemment, il n'y a pas le marteau. Le marteau a été mis après. Donc ce que vous voyez, en fait, c'est des couches de grès plus ou moins rougeâtres, et ici, des choses plus blanchâtres. Et on voit très bien ici en coupe. Et ça, pour l'œil exercé, on reconnaît des os. Et ça, on reconnaît parfaitement la forme d'une vertèbre avec les côtes qui partent sur le côté. Donc on a commencé à fouiller là. On s'est dit, tiens, il y a 3-4 os qui affleurent sur le gisement. Regardons ce que nous avons un peu plus en détail. Et donc, on a commencé à fouiller. Et au bout de 2 jours de fouille, on a trouvé ça. Donc là, vous avez un pied complet de dinosaure. Si vous regardez, vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5 doigts. Les griffes sont là. Toutes les phalanges, 1, 2, 3, sont présentes. Ici, vous avez les métatarsiens. Et vous pouvez faire tous les doigts comme ça. Donc là, on a un pied complet. Ça laisse présager que la suite est là. Donc évidemment, on a continué à travailler, mais on était là qu'en mission de prospection. On n'avait pas du tout les instruments nécessaires à une fouille complète, et on s'est donc retrouvé obligé d'abandonner la fouille, de récolter ce qu'on avait trouvé, et de se dire, bon, là, on arrête, parce qu'il y a la suite du squelette derrière. Seulement, on n'a pas les moyens de les sortir cette année. Ça va prendre trop de temps, il nous reste une semaine, on a des billets d'avion qui étaient déjà pris. Et donc, on est rentré à Paris avec cette idée en tête de trouver des financements pour pouvoir repartir les autos, chercher le reste de notre squelette. Donc là, vous passez un an à faire des dossiers, à essayer d'expliquer pourquoi ce que vous avez trouvé, c'est important, pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a la suite. Donc on a fait ça, on avait des belles photos, on n'a pas eu trop de mal à convaincre les collègues. Et donc on a réussi à obtenir des financements, et donc on est reparti avec une équipe un peu plus conséquente, avec des moyens un peu plus conséquents aussi, puisque vous voyez que là, on a sorti des gros burins. Certains de ces burins-là font près de 80 cm de longueur. On a alors rangé les petits marteaux de géologues. Vous voyez qu'on travaille avec de la masse. Et il faut donc ébranler la roche. Le but du jeu étant de faire le tour du squelette. Et une fois que vous avez fait le tour du squelette, de le prélever en essayant de faire le moins de casses possible. Alors, le bloc, juste ce petit bloc qui est là, ça n'a pas l'air, mais même avec les gros burins et les grosses masses, ça nous a pris une journée simplement pour le faire sauter. Donc je vous laisse imaginer un petit peu la difficulté du travail. Le travail était tellement difficile qu'on a fait tout le tour de la région pour essayer de trouver un marteau-piqueur. Alors on a eu de la chance, on en a trouvé un. Donc c'était un marteau-piqueur qui datait au moins aussi du début des dinosaures. Mais il marchait quand même. Donc vous ne voyez pas, mais là, ils ont 3 couches de vêtements parce qu'en fait, il envoyait de l'huile et de la graisse partout, le marteau-piqueur. Mais ça s'est quand même avéré relativement efficace et on a réussi à avancer un peu plus vite pour, à la fin, on était quand même ravis puisqu'on avait vendu quelque part notre projet en disant « Mais si, on vous assure, il y a tout le squelette. » Et effectivement, il y a tout le squelette, puisque les vertèbres, la vertèbre que vous avez vue tout à l'heure, trouvée en 2008, se mettait ici, à l'arrière. Et en fait, quand on a avancé, on a trouvé toutes les vertèbres. Vous avez la colonne vertébrale qui est ici. Là, vous avez la colonne cervicale qui commence, c'est-à-dire le cou de l'animal qui va faire ça. Et cerise sur le gâteau, au bout, je vous la verrai après, on a trouvé la tête et le crâne de l'animal. Là, vous avez les pattes antérieures, l'humérus, le radius, le cubitus. Et là, vous avez la cage thoracique de l'animal. Donc, c'est un squelette préservé en trois dimensions, complet. Alors, sur le terrain, quand vous voyez ça déjà, c'est très très joli pour une photo de terrain. Je sais que ça paraît pas visuel, mais je peux vous garantir que c'est ce type, avec ce type de squelette, on peut faire des reconstitutions d'animaux complets. Donc voilà, au bout du cou de l'animal, on a fini par trouver effectivement le crâne de la bête. Voilà, là je suis en train de taper sur le crâne justement. Ce que vous voyez ici, ça c'est l'orbite, donc l'œil de l'animal se positionne ici. Voilà, donc finalement le cou avec le crâne au bout. Et puis on a ramené aussi donc des pattes complètes. Et voici ce crâne. Alors ce crâne, cette photo a été prise il y a à peine 2 mois. Donc on a ramené le squelette complet, du moins le crâne, en 2010. Donc j'ai vidé ma valise. J'ai mis le crâne à la place de mes affaires. Je suis rentré, j'ai payé un beau supplément de bagages. On est rentré à Paris. Ce crâne, il a été préparé pendant 2 ans. Vous avez ici à peu près, ce n'est pas la version finale, puisqu'on a encore avancé la préparation à ce niveau-là. Donc là, vous avez le crâne, et là, vous avez les premières vertèbres, hein, ce qu'on appelle l'axis, c'est l'atlas et l'axis, les deux premières vertèbres. Ici, vous avez 2 os qu'on trouve très rarement, c'est ce qu'on appelle les os hyoïdes, ces os sur lesquels viennent se mettre les muscles qui font fonctionner votre langue. Et bien ici, on a retrouvé les os hyoïdes en connexion sur cet animal. Et donc cet animal a été découvert en 2008. On a fini de l'extraire en 2010. Le crâne a été préparé de façon définitive en 2012. Et la partie du squelette est encore là-bas, sur place. Donc elle a été extraite, elle nous attend à un musée, mais il faut la rapatrier en France. Donc ça sera au mois d'octobre. Et là, j'ai une étudiante actuellement qui va commencer sa thèse et qui va travailler sur ce matériel-là. Tout ça pour vous dire que ça fait déjà 5 ans qu'on travaille sur ce spécimen-là et qu'on n'a pas encore commencé véritablement à le décrire. Donc la fouille paléontologique, les recherches sont des processus qui prennent énormément de temps. À l'arrivée, qu'est-ce qu'il nous raconte cet animal? Parce qu'on ne fait pas juste ça pour le plaisir. Cet animal, il est important puisque, vous le voyez, il devrait ressembler à ça quand il sera remonté, ce qu'on appelle des prosauropodes, c'est-à-dire avant les sauropodes, avant le diplodocus. Et justement, ils vont nous apprendre un petit peu plus sur l'origine de ces géants, l'origine de ces grands dinosaures. Et on va donc, puisque c'est le premier spécimen de cette taille-là découvert en Afrique du Sud, donc on va se baser sur l'étude de ce spécimen-là pour essayer de mieux comprendre dans quelles conditions s'est faite l'émergence des très 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 grands dinosaures. Autre exemple, plus récent, moins lointain, mais tout aussi excitant, les carrières dans Jacques Charente. Donc ça, c'est actuel, puisque ce sont des fouilles qui ont lieu de tous les étés depuis 2010. Je pars à Anjac dimanche. Donc lundi, je serai sur le terrain pour une campagne qui va durer encore 6 ou 7 semaines, où on a une quarantaine de bénévoles qui viennent travailler avec nous. Et donc pendant 4 à 5 semaines, on travaille avec une équipe de 40 personnes sur une découverte assez exceptionnelle qui a été réalisée en France. Alors, on n'a pas énormément de dinosaures en France, ils sont souvent pas très jolis, mais là, on a vraiment affaire à un gisement particulier. Donc, on se trouve en Charente, Angoulême est ici, Cognac est ici, vous êtes au milieu de la Grande Champagne, Anjac-Charente se trouve là, sur les bords de la Charente, en plein milieu du vignoble. Et donc, en plein milieu de ce vignoble, on a trouvé, dans une gravière, puisque vous êtes ici, sur une carrière qui exploite les sables et les graviers des alluvions de la Charente, de la Paléo-Charente, hein, qui ces graviers-là ont 100 000 ans. Alors des fois, on trouve même des restes de mammouths dedans, donc c'est assez étonnant. Donc ce que vous avez ici, c'est la partie exploitée par les carriers, tout ce qui est blanc, gravier et sable. Et en fait, en dessous, vous voyez, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des argiles grises. Et entre ces graviers et ces argiles, il y a à peu près 130 millions d'années. Les graviers datent de 100 000 ans, mais les argiles datent de 130 millions d'années. Et dans ces argiles, on a trouvé tout un tas de vertébrés et de dinosaures. Donc la découverte est complètement fortuite. On la doit donc au Carrier, comme quoi les scientifiques peuvent aussi travailler en parfaite entente de temps en temps avec les Carriers. Donc ces Carriers ont prévenu mon collègue Jean-François Tournepiche du musée d'Angoulême. Et on a fait une première campagne de fouilles en 2010. Donc c'est mon collègue Didier Néraudeau de l'Université de Rennes qui m'a prévenu, qui m'a dit, à Angoulême, ils ont trouvé un magnifique gisement. Bon, il n'y a personne qui s'occupe des dinosaures, ça serait bien que tu viennes voir pour expertiser. Donc voici le chantier la première année. Une petite tente avec le matériel, une tente bleue sous laquelle les fouilleurs travaillent. Et vous voyez, la surface est quand même relativement petite, hein, ça fait à peine une vingtaine de mètres carrés. Et sur cette vingtaine de mètres carrés, alors premier problème, la nappe phréatique. On est au-dessus de la nappe phréatique, au-dessous plutôt de la nappe phréatique, et donc il faut pomper. Donc on a fait un puits perdu ici, en creusant ce puits on a trouvé tout un tas d'os. On a mis une pompe là-dessus pour enlever l'eau, et après il a fallu évacuer, vous voyez qu'on a pataugé dans la boue pendant les 3-4 premiers jours de fouille. Voilà, donc ça c'est pas très sympa le début de fouille. On patauge dans la boue. Quand on ne sait pas qu'il faut pomper parce qu'on n'a pas compris que l'eau remonte, le lendemain, qu'est-ce qui se passe quand vous revenez et que vous arrivez sur votre gisement? Vous êtes sous l'eau, donc on recommence tout à zéro. Et une fois qu'on a bien compris, eh ben, on prend ses dispositions. Avec un système de drainage, de pompe, on arrive à assécher une partie du terrain et après on peut commencer à organiser des fouilles assez extraordinaires. Donc vous voyez sur cette petite surface de fouille que vous avez là, on a trouvé en une seule campagne de fouilles, donc en 2010, plus de 850 ossements. 850 ossements, il faut savoir que ça représente ce qu'on trouve normalement sur un gisement français en 10 ans ou en 15 ans de fouilles. Hein. Donc un gisement très très riche. Vous en avez ici un exemple. Tout ce que vous voyez ici, tout ce qui est un petit peu noir, ça, c'est une petite phalange. Ça, c'est un morceau de tibia. Vous avez l'autre partie du tibia qui est ici. Et vous allez avoir tout un tas de pièces et d'ossements de dinosaures qui se retrouvent dans ces argiles. Donc là, c'est important. On a fait le travail. On a été voir le Conseil général. Et le Conseil général nous a donné les moyens de réaliser une fouille sur du long terme, puisqu'ils ont acheté une partie de la carrière, qui est donc maintenant... propriété, on va dire, qui est tombée dans le domaine public. On a un peu plus de moyens. Vous voyez qu'on a un petit peu augmenté notre surface de fouille. On a mis en place vraiment toutes les infrastructures avec... Donc, on a décidé de faire appel à des bénévoles. La plupart sont des étudiants en géologie ou en paléontologie. Donc, vous voyez qu'on est passé d'une petite tente toute verte à trois tentes, avec chacune de ces tentes, évidemment, une tente réfectoire qui nous permet de nous reposer et de manger, puisqu'on en a besoin aussi. Vous avez ici nos toilettes, magnifique. Vous avez aussi une tente de préparation, puisqu'on en profite pour former nos étudiants à la préparation et au dégagement fin. Donc les pièces, une partie des pièces qui sortent de la fouille sont directement dégagées et préparées. Donc vous voyez qu'on va faire ça à l'aide de binoculaires. On va utiliser des tamis pour tamiser. On va utiliser ce que vous avez là, les fils qui sont là, qui partent. Ce sont des micrograveurs, donc des petites pointes montées sur air comprimé qui vont vibrer très très vite et qui permettent d'attaquer le caillou, la roche, pour dégager les fossiles. Donc on a toute une batterie de cuisine, si je puis dire. Et voilà le gisement d'Anjac il y a 2 ans. Donc ça, c'était la deuxième campagne de fouille. Et donc, vous voyez qu'on a un gisement là qui est assez grand, qui est bien étendu. Et surtout, tous les petits morceaux de papier aluminium que vous voyez, à chaque fois que vous avez un papier aluminium, vous avez un os dessous. Hein, donc un gisement d'une richesse exceptionnelle, quelque chose de complètement inconnu pour l'instant en France. C'est tellement riche qu'on a aussi décidé de tamiser. Donc tous les sédiments qui sont passés par la fouille, au lieu d'être simplement jetés, vont être envoyés à une station de tamisage qui est ici, c'est-à-dire qu'on va tamiser toutes les argiles pour vérifier justement qu'il n'y ait pas ces petits, ces micro-mammifères dont je vous parlais tout à l'heure, et tout un cortège d'invertébrés qui pourraient nous aider à dater le terrain avec plus de précision. On a tout un tas d'animaux sur la fouille. Donc ça, c'est notre pire ennemi, les écrevisses, espèce invasive américaine, qui se met dans les drains qu'on creuse autour de la fouille, qui perce les drains, et le lendemain matin, quand vous revenez, quand elles ont percé les drains, toute l'eau s'est écoulée, et vous avez votre surface de fouille inondée. Donc on est obligé de récupérer ces animaux, et on les mange, c'est très très bon. Et on est obligé de les manger, hein, c'est réglementaire, puisque c'est des espèces invasives, on est dans l'obligation de les tuer. Donc la faune d'Anjac, elle est particulière. Donc là, je vous montre des photos, bon, un petit peu vieilles déjà, mais on y trouve tout un tas de choses. Vous avez ici des dents de crocodile avec différents types de crocodiles. Vous avez des plaques de tortue. Vous avez des dents de requin, des écailles de poisson. On y trouve toute une faune typique du Crétacé inférieur, mais surtout, on y trouve toute une faune de dinosaures qu'on ne connaissait pas par avant. Vous avez ici, par exemple, deux ornithopodes. Je vous parlais des ornithopodes tout à l'heure, avec une dent d'un animal qui s'appelle Ypsilophodon, un autre d'un animal qu'on a déjà vu tout à l'heure, l'iguanodon. Ces animaux ont des dents assez typiques pour pouvoir les déterminer avec précision. Mais surtout, on a trouvé deux choses exceptionnelles. La première, c'est un des plus gros, c'est même pas un des plus gros, mais c'est le plus grand os de dinosaure connu au monde. C'est ce que vous voyez devant vous, c'est ce fémur. Donc ce que vous avez ici, toc. Donc là, vous avez Doumé, qui est le préparateur local, qui est en train de dégager la tête du fémur. Et là, vous avez un fémur qui fait 2,20 m de longueur. Donc c'est le plus grand os de dinosaure qu'on connaisse à l'heure actuelle. Il semblerait que dans le gisement, on ait un fémur qui soit plus grand, puisqu'on a retrouvé simplement l'extrémité d'un autre fémur qui est un quart plus grande, donc qui est à peu près large d'ici à là. Donc on a affaire à des très 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 gros animaux, mais ces très gros animaux ont été amenés là par un fort courant. Les eaux sont malheureusement très 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 abîmées, donc c'est pas facile de les étudier. Donc voilà, on fait la une des journaux avec des découvertes comme ça. On a même eu le droit à ces pas sorciers qui est venu nous filmer sur le terrain. Donc cet os, vous voyez, en cours de dégagement, il est tellement spectaculaire qu'on a décidé d'en prendre une empreinte in situ. Donc là, on est en train de nettoyer toute la surface de fouille. Vous voyez qu'on fait tout le tour. À côté de ce grand fémur, vous avez des troncs d'arbres, là et là. Et on a moulé l'ensemble de cette surface. Moulé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà ce qu'on a fait de nuit. On a coulé une matière plastique, donc de l'élastomère sur la surface de fouille, pour garder une empreinte des eaux telles qu'ils étaient in situ. Une fois l'élastomère coulé, on a fait des tirages et on est parti d'un fémur. Ici, vous voyez qu'on a fait trois tirages. 1, 2, 3, c'est trois fois le même os. Hein. Mais vous voyez qu'on peut reproduire à volonté cette surface de fouille. Voilà une vision de l'animal. Alors, c'est juste pour la taille. Hein. Vous voyez ici le dessinateur et le grand sauropode. Juste pour vous donner une idée, la personne qui a réalisé ces dessins, c'est la personne que vous avez ici à gauche. Il s'appelle Pierre Mazon, c'est un dessinateur de bande dessinée qu'on a rencontré, qui nous suit et qui chronique l'ensemble de nos fouilles et qui nous fait bénéficier de son coup de crayon pour nous aider à illustrer un petit peu et raconter l'histoire de ces fouilles. Alors il le fait de façon des fois un petit peu humoristique, puisque vous voyez ici un sauropode en train de regarder passer les cagouilles charentaises. Autre découverte très importante en Anjac, alors on n'en est qu'au début, hein, mais c'est la découverte d'un troupeau d'au moins 10 dinosaures autruches. Donc vous avez ici une reconstitution de ces dinosaures autruches. On appelle ça aussi des ornithomimosaures. Et ces ornithomimosaures sont représentés par tout un tas d'os. Vous avez ici des exemples. Alors là, par exemple, vous avez un tibia de l'ornithomimosaure. Là, vous avez sa mâchoire. Vous voyez que c'est un dinosaure qui n'a pas de dents. Là, vous avez une partie du pied. Là-haut, vous avez des griffes. Enfin, on a plus de 950 os de cet animal. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait au moins 20 spécimens différents qu'on avait retrouvés sur une surface de moins de 100 mètres carrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y avait pas un seul individu, ce n'était pas une zone de piégeage, mais c'est qu'un troupeau qui s'est retrouvé emprisonné ici. Donc on est en train d'essayer de comprendre, de travailler sur ce qu'on appelle la taphonomie, c'est-à-dire la mise en place du site, pour essayer de comprendre comment ces 20 dinosaures autruches se sont retrouvés piégés ici. Et actuellement, c'est effectivement l'hypothèse qui ressort, c'est que c'est un piégeage, c'est pas des animaux qui sont venus un par un emportés par un courant, c'est des animaux qui se sont embourbés sur place et qui sont morts in situ. Donc voilà pour Anjac, c'était juste pour vous montrer un petit peu ce que donnait la paléontologie sur le terrain. Donc voilà une autre version des dinosaures autruches d'Anjac avec ses charentaises.